Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Emmanuel Macron présentera aujourd'hui son très attendu plan de lutte contre la pauvreté, un plan qui ambitionne d'aider les 8,8 millions de Français pauvres à sortir d'un cycle de précarité qui se transmet au sein des familles d'une génération à l'autre, un plan qui devrait être accompagné d'un budget avoisinant les 4 milliards d'euros. Et pour en parler, je suis en compagnie de Daniel Cohen. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes également sociétaire de l'Esprit Public, l'émission des Émilie Aubry sur France Culture, bien entendu. Pour fixer les idées, on a évoqué le niveau de pauvreté des Français, donc 1000 euros est le seuil en deçà duquel on est pauvre pour une personne seule, 2154 euros le seuil en deçà duquel on est pauvre pour une famille de deux enfants. Vos commentaires sur justement cette situation de la pauvreté en France ?
Bien, la pauvreté en France est à peu près dans la moyenne des pays européens, légèrement en dessous, mais à des niveaux qui ne peuvent pas se ramener à des statistiques. Vous le disiez à l'instant, il y a presque 9 millions de gens qui vivent avec moins de 2000 euros. Bon, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est seul. Alors, quand on est deux, les choses changent un peu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les familles monoparentales sont le cœur de la pauvreté. Il y a plus d'une famille sur trois, 35% de familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont des chiffres évidemment qui donnent le frisson. Seul, avec de telles ressources, on ne peut pas vivre, et a fortiori quand on a des enfants qu'on doit élever, même si on bénéficie par ailleurs d'allocations familiales. Donc oui, c'est une situation, même si on est dans la moyenne, qui n'est évidemment pas réjouissante, en sachant qu'il y a d'autres pays, bien entendu toujours les mêmes, à la Finlande, le Danemark, qui font mieux.
Et justement, on se pose deux questions simples. Daniel Cohen, tout d'abord, est-ce que les pauvres en France sont plus pauvres que leurs homologues de l'Union européenne ?
Non, on est encore une fois dans la moyenne. En fait, la France est bonne, si je puis dire entre guillemets, quand il s'agit de la très très grande pauvreté. C'est-à-dire, comme on a le RSA, comme on a une espèce de socle incompressible avec des aides au logement qui vont avec, très très pauvre, c'est quelque chose où les Français sont, à cause des dispositifs qui ont été créés au fil de l'eau, avec d'abord le RMI au tout départ, qui avait été créé par Michel Rocard, ça permet de limiter la casse quand on est très très bas. Quand on regarde les Français qui vivent avec 40% du revenu médian, à ce moment-là, la France a un taux d'extrême pauvreté de 3%. Il n'y a que la Finlande qui fasse mieux avec 2,2%. Je vous restitue les statistiques que j'ai eues ce matin, mais je pense qu'elles sont très parlantes. Il y a vraiment là, on est dans un socle. Maintenant, même dans cette...
Mais alors dans ce cas-là, est-ce que c'est un socle incompressible aujourd'hui ?
C'est le genre de socle incompressible avec, encore une fois, ce dispositif du RSA couplé aux aides au logement qui fait que on est armé pour lutter contre la très grande pauvreté. Mais attention, même là, on doit faire beaucoup mieux. Prenons le RSA qui est vraiment le socle absolu de soutien aux personnes en difficulté. Le chiffre le plus choquant, et j'espère que les mesures qui seront annoncées viseront en partie à lutter contre cette statistique aberrante, le chiffre le plus choquant, c'est que un tiers des bénéficiaires potentiels n'en bénéficient pas. C'est-à-dire le taux de non-recours, comme on dit techniquement, est très élevé pour ces populations en danger. Ils ont des droits, ils devraient bénéficier du RSA compte tenu de leur extrême dénuement, mais parce qu'ils sont perdus, parce qu'on perd le fil de leur situation, ils n'en bénéficient pas. Il y a évidemment beaucoup de choses qui doivent être faites pour accompagner ces personnes. Mais la première absolue, l'urgence, c'est de faire chuter ce taux de non-recours pour s'assurer qu'une personne qui vit dans le dénuement le plus extrême, moins de 500 euros par mois, bénéficie des dispositifs qui ont été conçus pour eux. Et ça veut dire, en effet, une grande remise à plat de la manière dont on suit les personnes en difficulté. Si on compte sur l'auto-déclaration avec un smartphone pour avoir droit au RSA, eh bien, on peut pas s'étonner qu'il y ait un tiers des bénéficiaires potentiels qui ne réclament pas ce à quoi ils ont droit.
La pauvreté en France, justement, vous avez publié Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète, c'est aux éditions Albin Michel. Les choses ont-elles changé en matière de pauvreté ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de la France est-elle pire qu'auparavant ?
Alors, il faudrait revoir les statistiques de l'époque dans le détail, mais je pense qu'on peut faire le pari que oui, alors c'était moins bien mesuré, on n'avait pas tout cet appareil, on n'avait pas ces instruments, le RSA, le RMI, qui permettaient exactement de suivre le nombre de bénéficiaires. Là, aujourd'hui, on peut dire, voilà les gens qui sont éligibles au RSA et d'une certaine manière avoir une statistique précieuse. Mais c'est le paradoxe de notre époque. Nous sommes relativement à la situation qui pouvait prévaloir en 1968, en moyenne, deux fois plus riche qu'à l'époque. Un des grands acquis de mai 68, ça a été une revalorisation très significative de 35% du salaire minimum. Parce que à l'époque, dans les années 60, le salaire minimum était considéré en réalité à l'époque comme un seuil incompressible. C'était un peu l'équivalent dans la mentalité de l'époque de notre RSA. On considérait que le salaire minimum, c'était pour survivre. Mai 68,
ce qui veut dire que le SMIC a
brutalement augmenté à partir de ce moment-là. Et quand il est devenu SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel de croissance, il a été indexé sur la croissance. Ça a été une des grandes réformes qui ont été faites ensuite par le gouvernement Chaban-Delmas, parce que on a changé l'idée qu'on se faisait de la pauvreté. Encore une fois, avant, la pauvreté, c'était presque dans l'absolu. Le SMIC, le salaire minimum, était revalorisé uniquement à proportion de l'inflation. On considérait que voilà, c'était un seuil avec lequel il fallait vivre. On dirait aujourd'hui, ça serait presque l'équivalent d'un euro par jour, qui est le seuil de grande pauvreté avec laquelle on définit, ou deux euros, avec laquelle la Banque mondiale définit la pauvreté incompressible, au-delà de laquelle on meurt, tout simplement. On a compris que la pauvreté, un, était relative. Il ne s'agit pas d'être pauvre dans l'absolu, c'est toujours relativement aux autres qu'on est pauvre. Et ce n'est pas, comme dans les discussions qu'on peut avoir, une question d'envie, de comparaison aux autres. Ça marche, mais pour les classes au-dessus. Là, c'est tout simplement que se loger signifie qu'on ait un pouvoir d'achat qui est indexé sur le prix de l'immobilier, lequel est par définition indexé sur le revenu des autres. Donc la pauvreté est relative. Pouvoir vivre quelque part, c'est disposer des moyens de vivre parmi les autres et donc indirectement disposer d'un revenu qui est indexé sur les autres. Il a fallu beaucoup de temps, et mai 68 y a contribué, pour comprendre cette chose très simple. Et puis ensuite, plus philosophiquement, des grands penseurs comme Amartya Sen ont expliqué que la pauvreté
était... Faut rappeler qui est.
Alors Amartya Sen. Qui a eu le prix Nobel entre guillemets, c'est un prix de la Banque de Suède, peu importe, d'économie, mais qui est aussi un grand philosophe, a expliqué que, indépendamment des considérations dont je parle, le fait que se loger, par exemple, exige un pouvoir d'achat qui soit indexé sur celui des autres, la pauvreté est toujours relative, parce que, disait-il, ne pas avoir une télévision, il prenait cet exemple pour l'Inde de l'époque qu'il décrivait, ne pas avoir une télévision, c'est être privé du monde social, c'est être pauvre en un certain sens. Donc dire les pauvres exagèrent, ils veulent une télévision, c'est ne pas comprendre ce qu'est la pauvreté. C'est une dépossession de soi-même relativement aux autres, parce que on est toujours comme humain parmi les autres. Bon, tout ça pour dire que il est normal qu'on définisse la pauvreté relativement à la moyenne. Et encore une fois, ce qui a changé en mai 68, c'est qu'on n'a plus accepté la pauvreté dans le monde du travail, et d'où le SMIC. Et je reprends maintenant votre question, c'est ça qui s'est passé au cours des 50 dernières années, avec le délitement de tous ces ordres organisés qui pouvaient exister dans la société industrielle. Alors, on est rentré dans un monde de précarité nouvelle, dans lequel la forme « je travaille à temps plein » s'est progressivement effilochée. On a beaucoup de travailleurs pauvres, parce qu'ils travaillent à temps partiel, 3 heures le matin, 2 heures le soir, dans des conditions que tout le monde connaît. Et c'est la raison pour laquelle on est passé du RMI, celui de Michel Rocard, qui avait un peu cette idée d'un seuil de pauvreté incompressible, au RSA et aujourd'hui à la prime pour l'activité, parce qu'on comprend qu'il faut pas seulement se contenter de donner un minimum fût-il indexé sur celui des autres, mais accompagner les gens dans le retour à l'emploi en les soutenant avec un revenu additionnel qui leur permet de ne pas être des travailleurs pauvres.
9 millions de pauvres, pourquoi les politiques de lutte contre la pauvreté ont-elles échoué, Daniel Cohen, vous qui êtes économiste ?
Alors, il faut toujours faire attention quand on dit qu'elles ont échoué, parce que les études statistiques montrent que sans ces dispositifs, les situations seraient bien pires. Donc, attention à ne pas faire le procès de nos dispositifs. Ils permettent de réduire l'adresse, disait, de presque 10, l'adresse qui est l'Institut de statistique qui mesure un peu toutes ces choses. elles ont permis, ces dispositifs ont permis de réduire les taux de pauvreté de presque 10 points. Donc ce serait presque deux fois pire, enfin pas exactement, mais proche de ça, si on n'avait pas ces dispositifs. Donc qu'est-ce qui manque? Mais il manque, encore une fois, les moyens de toucher tous les publics, ça c'est certain. Et puis, deuxièmement, les moyens de faire plus que simplement donner des ressources monétaires. Ça va pas suffire à permettre à quelqu'un de revenir dans le monde social. Je parle même pas de l'emploi, de revenir dans le monde social, de disposer d'une activité qui lui donne une forme de fierté. Donc tout ça exige des dispositifs additionnels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 19 départements ont demandé au gouvernement le droit de faire une grande expérimentation pour créer quelque chose qui ressemble à un revenu de base intégré, qui inclut tous ces dispositifs dont on parle. Le RSA, la prime pour l'emploi, les aides au logement, pour en faire quelque chose de simple, de compact, qui permettent d'abord de suivre mieux les personnes, puisqu'ils auront un revenu qui sera peu ou prou indexé sur leur revenu d'activité et qui permettra de suivre leur situation réelle, mais qui surtout permettra de libérer du temps et des efforts de la part des travailleurs sociaux pour s'occuper des personnes en difficulté plutôt que de passer un temps incalculable à faire le calcul des droits et de vérifier qu'ils ont bien rempli toutes les cases.
Mais je connais quelqu'un, Daniel Cohen, qui dit que tout ça, ça coûte un pognon de dingue, autrement dit que ça crée des effets d'aubaine, des gens qui bénéficient de ces dispositifs sans qu'il y ait véritablement un effort, alors peut-être une volonté, peut-être que c'est ça aussi l'arrière-pensée, d'opérer un retour vers l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce type de dispositif est effectivement efficace ou bien est-ce qu'il permet uniquement de maintenir ces individus dans une inclusion sociale relative?
Comme instrument de lutte contre la pauvreté, encore une fois, si on ne les avait pas, ce serait bien pire. On pourrait avoir presque 20% de la population française qui serait en situation de détresse. On fait un effort.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas aux incitations?
Maintenant, mais on a fait la prime.
Parce que toute l'école anglo-saxonne consiste à dire, en fait, toutes ces aides, elles sont désincitatives.
Oui, c'est ce que disaient les auteurs classiques au XIXe siècle pour expliquer qu'il fallait supprimer les aides aux pauvres parce que ça les dissuadait de travailler. Un autre grand économiste et philosophe, Albert Hirschman, disait, dans un livre qui s'appelait « Deux siècles de rhétorique conservatrice ou réactionnaire », c'est chaque fois qu'on aide pour les pauvres, il y aura toujours quelque part un conservateur pour dire « c'est pas bon pour eux ». Donc moi ça me fatigue. Quand Michel Rocard a créé le RMI, on a entendu exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque, mais ça veut dire qu'il faut l'assumer et deuxièmement, se donner les moyens d'aller chercher ces populations. Moi, je crois que l'urgence, elle est beaucoup plus de lutter contre le taux de non-recours. Je suis archi favorable à une grande simplification qui fasse qu'on ait en effet un revenu de base qui permette de se dispenser, de faire plein de calculs pour savoir à quoi on a droit en sachant qu'il y a plein de choses trappes dans les mécanismes actuels. Les chercheurs de l'École d'économie de Paris ont montré que c'est un chemin de croix en termes d'incitation, pour parler votre langage, quand on passe de zéro SMIC, c'est-à-dire aucune activité, à un SMIC, entre 25 et 50, bizarrement, on vous prend 70% parce que l'aide au logement et le RSA ne se chevauchent pas tout à fait, puis ça redescend. Il faut quelque chose de beaucoup plus simple. Mais aux critiques, et je rejoins ce point des 19 départements qui veulent le droit à une expérimentation sociale, faisons de l'expérimentation sociale. Créons un dispositif plus simple, plus incitatif peut-être, puisque on n'aura pas ces choses trappes de l'enchevêtrement de mesures et de dispositifs hétérogènes entre eux, et voyons ce qui se passe. Bon, voyons si ça dissuade du retour à l'emploi, voyons si au contraire ça permettra d'aller chercher plus loin les personnes en difficulté, voyons si le temps qui sera libéré permettra aux travailleurs sociaux de mieux faire les choses. Bref, pour les sceptiques, je dis, donnons une chance à ces 19 départements pour qu'ils aient la possibilité de faire grandeur nature une formidable expérimentation sociale qui, à mon avis, fera taire les critiques et montrera tout le bénéfice qu'on a à créer un grand dispositif intégré qui inclut le RSA, la prime d'activité et les aides diverses au logement. Je crois que là, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais ça coûtera du pognon, pour reprendre votre formule, puisque l'un
c'est
des
buts... C'est pas la mienne, Daniel.
La formule que vous citiez, parce que...
Mais qui était très critique sur les systèmes.
L'un des objectifs sera de faire baisser le taux de non-recours, d'augmenter tout simplement le nombre de ceux qui en bénéficieront. Pour vous donner un ordre de grandeur, le RSA seul coûte 11 milliards, je ne sais pas si c'est du pognon de dingue au regard de toutes les masses fiscales dont on parle par ailleurs en termes d'exonération d'impôts et autres, 11 milliards et 30%, 35% de ceux qui ont droit ne le touchent pas. Ça veut dire que on vole 3 milliards d'euros aux très pauvres, puisque on ne va pas leur donner ce à quoi la loi leur donne droit. Donc voilà le pognon de dingue, une mesure simple qui simplement fasse baisser le taux de non-recours, mécaniquement augmentera d'au moins 3 milliards les dépenses qu'il faut consacrer à la lutte contre la pauvreté.
Le quotidien Le Parisien aujourd'hui détaille les principaux points envisagé, prévisible de ce plan contre la pauvreté, avec un volet extrêmement important sur la petite enfance et l'enfance, et c'est l'une des politiques constantes dans ce gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne idée de considérer que d'abord, il faut se préoccuper et s'occuper des enfants pauvres ?
Oui, mais bien sûr. Enfin, non, pas du tout, les enfants, non. Évidemment.
On avait accusé Tony Blair, par exemple, de s'être trop préoccupé du plan donc petite enfance au détriment d'un plan pour les adultes.
C'est un peu ce que j'allais dire. Bien sûr qu'il faut s'occuper de la toute petite enfance, etc. Mais si en creux, c'est une manière de dire c'est eux la priorité et pas les autres, non. Je disais, plus d'un tiers des familles monoparentales vivent dans la grande pauvreté. Bon, c'est quand même déjà une chose en soi qui montre que nos dispositifs ne sont pas formidables. Mais reprenez les 18-25 ans qui ne bénéficient pas du RSA, bon, pour toutes sortes de raisons, mais essentiellement des raisons budgétaires, 25% des 18-25 ans, ce sont pas la toute petite enfance, sont dans une situation de pauvreté au regard de tous les critères dont on vient de parler. Donc, oui, bien sûr, absolument, la toute petite enfance, les dispositifs d'accueil, c'est formidable et c'est très important puisque c'est tout un destin qui se joue à ce moment-là. Mais si c'est pour ignorer les autres problèmes dont on vient de parler, alors non, il faut évidemment faire les deux.
Faire les deux au niveau donc de l'éducation et des différentes expériences qui sont menées. Parce que là, pour le coup, en économie, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de savoir ce que l'on peut faire pour faire en sorte que des élèves qui sont dans des familles défavorisées aient la possibilité de suivre des études dans de meilleures conditions, soient mieux orientés, bref, échappent à la loi de la reproduction scolaire qui leur est défavorable, Daniel Cohen?
De toute façon, la loi de la reproduction scolaire, il n'y a pas besoin d'aller chercher la très grande pauvreté pour savoir que c'est une loi d'airain, pour reprendre une formule célèbre. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre, qui est absolument incroyable, qui a suivi dans une région anglaise tous les enfants nés un certain mois d'une année, je crois que c'était 1971, tous. Et du coup, on a pu voir les différences de destin selon le revenu des parents, selon la situation psychique de la mère ou du père, selon la qualité des enseignants. Et un des résultats incroyables de cette étude, c'est que la qualité, pas de l'école seulement, bien sûr, ça compte, mais du maître, joue un rôle considérable dans la trajectoire postérieure de ces jeunes nés en 1971. C'est dire l'importance du soin qu'on apporte aux enfants, puisque comme j'ai tous les enfants dans mon échantillon, je suis capable de voir, à situation sociale égale, la différence que ça fait d'avoir été dans telle classe avec tel maître relativement à tel autre. Et on voit l'importance de ce que les enseignants de la toute première heure peuvent offrir aux enfants, relativement évidemment aux parents, dont le rôle est tout à fait considérable. Bien sûr aussi, mais je crois que ce genre d'études, dont on aurait d'ailleurs bien besoin en France, montre à quel point les conditions de socialisation dans le monde scolaire comptent pour le destin ultérieur des enfants.
Oui, parce qu'au final, ce que vous dites, c'est qu'on n'expérimente pas assez en matière donc de lutte contre la pauvreté en France.
Oui, on a fait des études. D'ailleurs, l'École d'économie de Paris avait été mise à contribution sur le RSA. C'est un peu une culture nouvelle, mais c'est impératif que la France se dote de grands outils d'évaluation qui permettent, voilà, dans un département, une dizaine, une vingtaine, mais bon, je ne vais pas insister trop lourdement là-dessus, mais dispose des moyens. On peut penser aux mêmes choses en matière de santé. Qu'est-ce qui se passe si je crée ce dispositif? Au fond, les grandes mamelles, on va dire, du capital humain que sont l'éducation et la santé sont dans les mains de l'État, pour l'essentiel. Il faut que l'État se donne les moyens de faire de l'innovation et d'évaluer cette innovation.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Daniel Cohen, et on va évoquer cette fois-ci les mécanismes qui pourraient produire plus de pauvreté à l'avenir. Par exemple, la nouvelle économie, je rappelle que vous venez de publier « Il faut dire que les temps ont changé » chez Albin Michel. On a évoqué le plan de lutte contre la pauvreté. On peut évoquer aussi, puisque Frédéric évoquait une bourrasque politique, il y a eu l'affaire Benalla, je crois qu'on en a parlé dans les médias. Indépendamment de l'affaire Benalla, du départ de Nicolas Hulot, il y a peut-être aussi une autre cause à l'impopularité d'Emmanuel Macron. C'est ce titre du Monde d'hier, « Macron handicapé par la faiblesse de l'économie ». Et là, selon le journal Le Monde, les faiblesses de l'économie française apparaissent. Il y a de plus en plus de signes que la machine économique pourrait ne pas créer autant d'emplois qu'elle le devrait, que les Français le voudraient. Votre point de vue justement sur cette situation économique et peut-être aussi les déceptions ?
Oui, bien sûr, c'est tout à fait évident. L'économie française au premier semestre a mal fonctionné. On était au semestre précédent, le deuxième semestre de l'année 2017, sur un rythme de croissance moyen de 1,4%, c'est-à-dire qu'on a fait deux fois 0,7, peu importe, et au premier semestre de cette année, on a fait deux fois 0,2%, c'est-à-dire 0,4 si on fait la somme sur le semestre. C'est des rythmes très inférieur à ceux que l'année 2017 nous avait fait connaître. Sur le terrain de l'emploi, c'est pareil. On était sur des rythmes de création d'emplois supérieurs à 300 000 emplois créés en moyenne tout au long de l'année 2017. Selon l'INSEE, sur 2018, c'est simple, on va faire deux fois moins. On est sur des rythmes de 150 000 emplois créés, ce qui est un peu au touche-à-touche avec la croissance spontanée de la population active. Donc, en fait, le chômage va baisser beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est dû spécifiquement aux erreurs de management du gouvernement en place? Oui, en partie. Toute la controverse sur la CSG, qui n'est reversée que progressivement pour faire des économies budgétaires, en fait partie. Il y avait une controverse entre le gouvernement et l'INSEE sur la question de savoir si les taxes sur le tabac, sur le diesel, allaient amputer le pouvoir d'achat ou si ça allait changer les comportements. Évidemment, c'est l'INSEE qui avait raison. Avant de changer les comportements, ça ampute le pouvoir d'achat. Au premier trimestre de cette année, le revenu en pouvoir d'achat des ménages a baissé, mais il y a aussi un gros facteur là qui, pour le coup, s'applique à l'ensemble de la zone euro, qui, elle aussi, d'ailleurs, décroche un peu comme la France, en fait, c'est la hausse du prix des matières premières. On a une inflation qui a beaucoup monté, elle s'élève à 2,3% sur l'année. Si on enlève les matières premières, elle ne serait que de 1%. La différence entre les deux, c'est au fond l'amputation de pouvoir d'achat que subissent les Français à cause de la hausse du prix des matières premières. C'est un facteur exogène, mais qui fait que on fait les malins quand tout va bien. En 2017, voilà, la confiance renaît, alors qu'évidemment personne ne pouvait croire que c'était des mesures qui n'étaient même pas encore prises, qui étaient derrière la croissance et la hausse de l'emploi. Eh bien, on en subit les conséquences, même quand c'est pas vraiment de votre faute, il y a une part de responsabilité, mais c'est pas l'essentiel. Eh bien, on vous le reproche, parce que c'est comme ça, les hommes politiques s'approprient les mérites d'une croissance quand elle revient et subissent les conséquences quand elle disparaît, même si dans les deux cas, en réalité, bien souvent, ça ne dépend pas d'eux.
Est-il juste aujourd'hui de reprocher ces chiffres médiocres, selon vous, Daniel Cohen, à Emmanuel Macron, ou de toute façon il est encore trop tôt pour faire un bilan de sa politique économique?
Encore une fois, il fallait moins fanfaronner quand la croissance est revenue, parce que là, du coup, on s'expose.
Ça fait partie des choses.
Voilà, donc exactement. Donc symétriquement, quand ça va pas bien, on dit que c'est votre faute. En fait, encore une fois, ni dans un cas ni dans l'autre, ça n'était à son crédit et aujourd'hui à son bénéfice. Mais en effet, il y a quelque chose qui est en train de se jouer peut-être, de se cristalliser. C'est qu'Emmanuel Macron a pris un certain nombre de mesures qui étaient en fait assez conflictuelles du point de vue de la société. On prend aux retraités, on donne aux actifs, on donne aux détenteurs de capital et indirectement on prend aux fonctionnaires puisqu'il faut faire des économies en contrepartie de tout ça. Ça passe quand la croissance est forte parce qu'on peut dire, voilà, je fais un jeu de bonneteau mais au bout du compte c'est bon pour la croissance. Plus la croissance ralentit, plus les mesures que l'on prend apparaissent comme un jeu à somme nulle. Je prends dans la poche des uns pour donner aux autres. Et c'est ça qui n'est pas bien pour Macron, c'est-à-dire ce sentiment qu'au fond, il est dans une politique de redistribution un peu classique, je prends dans la poche des uns pour donner aux autres, alors qu'évidemment son ambition, c'était de mettre tout ça au service d'une France renouvelée. Comme la croissance n'est pas là, alors tout d'un coup, un peu la marée qui se retire, on voit qu'il était tout nu quand la mer se retire, disait Warren Buffett. Il y a un peu quelque chose de cette nature, ça aiguise les traits de la politique macronienne, parce que la croissance étant faible, on voit qui profite et qui ne profite pas, et ça n'est pas englouti par une vague de richesse qui pourrait faire penser que finalement, tout ça était pour le bien public.
Avant de prendre un peu de champ et d'évoquer l'évolution de l'économie mondiale et sa capacité ou non à créer des emplois ou à en détruire, puisque aujourd'hui, selon vous, la question, c'est la destruction d'emplois. Daniel Cohen, il y a quand même un président qui fanfaronne, c'est Donald Trump. Il se targue des très bons résultats de l'économie américaine. Il a raison ou il a tort?
Il a évidemment tort. C'est-à-dire que Trump a réussi à relancer la machine économique américaine en acceptant des déficits considérables de 5 points de PIB. Alors même qu'on est en haut de cycle américain, le déficit est une arme évidemment très utile, mais à manier avec précaution quand l'économie va mal. Or lui, alors que l'économie était déjà presque au plein emploi, enfin le taux de chômage américain est inférieur à 4%, bon, il n'y avait vraiment aucun besoin à ce moment-là du cycle de soutenir l'économie américaine, il brûle ses cartouches. Quand le ralentissement qui va se produire fatalement de l'économie américaine va se manifester, le taux de déficit va passer par définition de 5 à 6, 7. Et là, tout d'un coup, il devra faire, comme tous les gouvernements européens depuis 20 ans, une politique non pas contracyclique, c'est-à-dire qu'il lutte contre le cycle, mais pro-cyclique, c'est-à-dire qu'il va accompagner le cycle. Quand ça va bien, ça va encore mieux parce qu'on remet de l'argent, et quand ça va mal, il va falloir rétro-pédaler, sauf à prendre le risque d'un crack, parce que peut-être qu'il voudra pas réduire les déficits, mais à ce moment-là, il peut y avoir, même pour les États-Unis, une panique sur la dette. Bref. Il n'y a aucun mérite à accorder à Trump de cette reprise. Tous les économistes, je crois, sont d'accord sur le fait que c'est l'effet mécanique de la hausse des déficits. Encore une fois, pas au bon moment du point de vue, on va dire, de la tendance moyenne de l'économie américaine.
Évoquons maintenant, Daniel Cohen, l'évolution cette fois-ci du système productif mondial, de la manière dont l'économie aujourd'hui prend un tournant avec la nouvelle économie, avec le web, pour le dire en un mot, et les conséquences que cela pourrait avoir sur nos emplois. Dans votre livre, il faut dire que les temps ont changé. Vous vous montrez plutôt pessimiste sur la capacité d'Internet à tenir ses promesses. Il y avait une promesse d'émancipation, il y avait une promesse d'augmentation du pouvoir d'achat. Et finalement, on arrive à un résultat où on se demande, par un certain nombre de mécanismes, si Internet ne va pas contribuer à détruire nos emplois. Qu'en est-il selon vous?
Alors, moi je pense d'abord qu'il faut... C'est pas nouveau Internet, c'est le milieu des années 90. La révolution informatique elle-même, pour le dire simplement, c'est la fin des années 70, le début des années 80 avec les ordinateurs de bureau. Donc on a quand même beaucoup de recul maintenant. Et je crois qu'il faut justement faire un peu une distinction entre peut-être deux phases. La première phase qu'on a connu depuis maintenant 40 ans, c'est une phase dans laquelle, grâce à l'instrument informatique, on a accompagné une révolution financière qui se produit dans les années 80 et qui a tout simplement visé à déstructurer l'ancien monde industriel. L'ancien monde industriel, c'était des grandes sociétés pyramidales dans lesquelles le patron, l'ingénieur, le cadre, l'ouvrier à la fin étaient intégrés dans une grande chaîne de valeur au fond solidaire, dur, hiérarchique, mais solidaire. Le salaire du patron et le salaire de l'ouvrier étaient indexés l'un à l'autre. Il y a très peu de creusement des inégalités au cours de cette période. Et au fond, on connaît un mode de croissance qu'on va appeler inclusif. À partir des années 80, et ça commence avant la révolution informatique, mais avec la révolution financière, on coupe en tranches, on externalise tout. Tout ce qui peut être fait par autrui, on le fait faire par autrui. C'est le rêve d'une société sans usine et d'usine sans travailleurs. Et au fond, la mauvaise réputation de la révolution informatique, elle tient à ça. Ça a été un instrument de destruction des solidarités implicites qui pouvaient exister dans l'ancien monde industriel. Et je pense que cette phase-là, elle a atteint un peu son point stationnaire. C'est difficile d'aller plus loin dans l'externalisation qu'on a été aujourd'hui. Et donc, on est dans un monde de dissociation. Les travailleurs les plus qualifiés restent entre eux. Les travailleurs les moins qualifiés dans des entreprises de sous-traitance restent entre eux aussi. Il y a une statistique que je trouve tout à fait extraordinaire. Alors que les inégalités ont explosé aux États-Unis, il n'y a plus besoin de revenir sur les chiffres qui sont bien connus. En fait, les inégalités au sein des entreprises n'ont pas augmenté. Parce que entre les entreprises, on n'a plus que des gens très proches entre eux. Et donc, on n'a pas d'augmentation l'augmentation des inégalités, évidemment, c'est très trompeur, parce que là où il y a inégalité de destin, on externalise la situation, et ça fait le lien avec la grande pauvreté dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, je crois que cette phase laisse place à une autre maintenant. On passe peut-être à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de nouveau. Alors, on va voir si c'est menaçant ou pas, mais c'est une nouvelle phase qui, je crois, rouvre complètement la discussion. C'est pas forcément
Pourquoi
rassurant. Alors, l'intelligence artificielle, c'est la deuxième phase de ce processus dont j'ai parlé et qui, en fait, va plus loin dans le processus qui a été créé. Je crois que si on essaye de donner du sens à la transformation du monde, on peut dire, en reprenant une typologie très très classique et que le grand économiste français Jean Fourastier avait expliqué, au fond, l'histoire humaine, ça a été pendant des millénaires de travailler la terre, puis avec la société industrielle, de travailler la matière, on travaille des objets pour fabriquer des objets, et au fond, le nouvel âge qu'il annonce depuis longtemps, mais qui, je crois, s'est matérialisé, c'est de s'occuper de l'homme lui-même. Je vais m'occuper de vous. Bon, ça, c'est le nouvel enjeu, c'est la nouvelle chose, si on peut dire, que la société post-industrielle va travailler. Comment elle fait ? Dans une société où il faut s'occuper des corps, il faut un médecin qui s'occupe d'un malade, il faut un enseignant qui s'occupe d'un élève, il faut des corps face à des corps. En fait, comme le disait très bien Fourastier, ça ne crée pas de croissance économique, parce que le temps que je consacre à vous, je ne peux pas le consacrer à quelqu'un d'autre, et comme le temps n'est pas extensible, on est obligé, au fond, de s'accoutumer à une forme de stagnation. Il faut travailler plus pour gagner plus, certainement, ce que disait Nicolas Sarkozy, que vous aviez reçu ici, il y a une quinzaine de jours, mais comme le temps ne peut pas aller au-delà de 24 heures par jour, on voit que c'est limité. Que propose l'intelligence artificielle ? C'est justement de dynamiter cette limite. On va vous faire traiter par une intelligence artificielle. Comment ? Vous allez cesser d'être un corps, Guillaume, vous allez devenir une information. Je vais pouvoir m'occuper de vous parce que tout ce que je dois savoir de vous sera en ligne. Vous avez vu qu'hier, Apple a présenté ses nouveaux produits et dans ses nouveaux produits, dans l'Apple Watch, on va pouvoir prendre constamment votre pouls. On pourra même faire un électrocardiogramme, ce qui veut dire qu'un médecin à distance va savoir exactement votre état de santé. C'est donc un monde différent qui est en train, en réalité, aujourd'hui, de se dessiner.
Oui, mais alors, pensons à ces travailleurs qui sont parfois les travailleurs les moins qualifiés, ceux-là qui sont menacés hier, en tout cas, c'est ce que l'on nous répétait. On nous disait qu'ils étaient menacés par la délocalisation. Si on rentre dans une économie qui est une économie de service, puisque beaucoup de tâches seraient faites par les machines, Daniel Cohen, dans ce cas-là, ce que l'on peut se dire, c'est qu'un certain nombre de tâches de service, d'aide aux personnes âgées, relèvent de l'économie dite présentielle. Ça veut dire qu'il faut être présent pour les faire. Et donc, elles ne sont pas délocalisables. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais justement, le point de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir délocaliser ces tâches présentielles. À partir du moment...
Il y en a un certain nombre.
Beaucoup. À partir du moment où une montre va pouvoir prendre votre pouls, déjà, il n'y aura plus besoin de quelqu'un pour prendre votre pouls. À partir du moment où on pourra faire avec cette montre un électrocardiogramme, il n'y aura plus besoin de quelqu'un pour faire cet électrocardiogramme. Bientôt, on pourra imaginer aussi que ce processus aille plus loin, puisque vous aurez sur votre tablette des informations très précises sur ce que on comprend que vous devez prendre comme médicament pour... Et Amazon vous sera peut-être même branché, vous apportera directement ces médicaments. Mais pour rester optimiste, je crois qu'il y a deux voies en réalité possibles. Et on ne peut pas dire laquelle va se manifester. Une, c'est le processus dont on est en train de parler. Les entreprises qui produisent les biens les plus immatériels, les logiciels, les algorithmes, l'intelligence artificielle, captent toute la valeur. Et puis, les Steve Jobs, et bon, mal décédé, mais les Bill Gates, eux-mêmes très riches, auront une domesticité autour d'eux. Ils auront des médecins, ces gens-là. Ils auront des avocats. Ils auront des coachs qui s'occuperont de leur corps, etc. Et on va avoir par cercle concentrique une mauvaise percolation de la richesse. C'est un peu ce qu'on a observé au cours des 50 dernières années. Maintenant, il y a un autre monde possible et il ne va pas venir tout seul. Il faut travailler à ça. C'est un monde dans lequel l'infirmière va trouver un emploi revalorisée parce qu'elle va disposer de ces technologies pour faire un diagnostic qui va lui permettre d'agir. Donc on peut imaginer, et en fait dans l'histoire c'est souvent comme ça que ça s'est passé, des complémentarités nouvelles entre une nouvelle classe moyenne et ces technologies. Donc le médecin deviendra peut-être un peu moins utile, l'infirmière plus utile, mais il faut œuvrer à ça pour que notre société, au fond, accomplisse cet idéal d'humanisme qu'on attendait dans cette société présentielle, pour reprendre votre formule, cette société de service qui était annoncé il y a déjà assez longtemps.
Mais alors ça, ce sont des emplois qualifiée pour être infirmière, il faut faire des études.
Bien sûr. Moi, c'est des emplois de classe moyenne. C'est des classes moyennes.
Moi, je parle des pauvres, puisque nous évoquions les pauvres aujourd'hui. Emmanuel Macron va dévoiler son plan de lutte contre la pauvreté. Je parle des pauvres et ce joli mot d'employabilité, de leur employabilité au futur. Puisque aujourd'hui, ce que l'on voit par exemple aux États-Unis, qui est un pays qui a beaucoup investi en matière d'intelligence artificielle, il y a énormément d'emplois qui ont été créés, qui sont des emplois mal payés, précaires et occupé par des gens pauvres qui le restent de par ce fait, des emplois de livreurs, une multiplication par exemple des emplois de gardiens d'immeubles parce qu'il faut recevoir les colis qui sont livrés par Amazon. Il y a toute une série d'emplois de ce type qui sont créés. Est-ce que ça, on peut imaginer que ça contrebalance la destruction d'emplois que vous évoquez par ailleurs? Est-ce que ça signifie par exemple qu'on va avoir des sociétés en sablier, c'est-à-dire avec des gens très très riches en haut et puis des gens très pauvres occupant des emplois précaires? C'est ça notre avenir, Daniel Cohen?
Je pense que c'est une des branches de l'alternative, mais encore une fois, il y en a une deuxième. Quand on regarde les évolutions de l'emploi aux États-Unis, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'effectivement, la richesse va au 1%, au 0,1% les plus riches, mais les emplois sont tout en bas. C'est les emplois dont vous venez de parler. Il y en a encore beaucoup, parce qu'on a besoin de présence de personnes, etc. Ce qui a disparu aux États-Unis, enfin qui s'est véritablement affaissé, ce sont les emplois de la classe moyenne. Ce sont ces emplois qui servaient au fond d'intermédiaire entre le haut et le bas, parce que le numérique permet de s'en dispenser. Je n'ai pas besoin d'une personnelle intermédiaire pour donner une instruction. J'envoie un mail, tout le monde obéit, on n'en parle plus. Donc, un des enjeux, bien sûr, on peut relier tout ça ensemble, mais un des enjeux que scrutent les économistes, c'est si cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle va permettre de reconstituer une classe moyenne. Ça n'est pas la question que vous posez, mais c'est celle qu'on se pose parce que c'est là que la destruction a été la plus massive. Et moi, je pense que c'est possible. Mais encore une fois, il faut agir. Imaginez les hôpitaux publics. Prenez la médecine ambulatoire. Il y a un grand besoin d'une intelligence artificielle qui connecte tout ça, qui permette de suivre les patients en aidant les personnels hospitaliers à faire ce suivi sans renoncer à leurs tâches. Si on ne dote pas, dans cet exemple, l'assistance publique des moyens d'une réflexion qu'elle pourrait avoir par elle-même sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que Apple nous a proposé hier, c'est-à-dire des applications tueuses qui se substituent à tout ça, qui disent, mais voilà, moi j'ai un partenariat avec Amazon, je vous soigne, je vous envoie les médicaments. On n'a plus besoin de rien. Mais ça, c'est évidemment pas souhaitable. On veut des infirmiers, on veut des personnes, on veut des personnels hospitaliers, on veut des médecins. On a besoin de cette humanité. Mais il faut leur donner les moyens de lutter contre ces... Enfin, pas lutter, de s'approprier ces technologies pour éviter, encore une fois, ces applications tueuses qui peuvent se substituer à eux si on n'y réfléchit pas à l'avance.
On veut des médecins, comme vous dites, on veut des infirmières. Oui, on veut tout ça, mais on aime bien avoir des interlocuteurs, on en a de moins en moins. Aujourd'hui, un certain nombre de tâches, grâce à l'intelligence artificielle ou pas d'ailleurs, on les fait soi-même pour réserver un billet d'avion. Aujourd'hui, au supermarché, il y a de moins en moins de caissières. Il y a les caissières automatiques, enfin les caisses automatiques et maintenant les douchettes. Est-ce que vous êtes sûr que ce mouvement est réversible, quelles que soient nos envies, nos souhaits?
Réversible pour les exemples que vous donnez, bien sûr que non. Quand les interphones ont remplacé les concierges, bon, on a vu disparaître les concierges. Maintenant, encore une fois, le cœur des besoins, c'est des besoins qui portent sur l'humain. On a besoin d'être soigné, on a besoin d'être éduqué. Est-ce qu'on va mettre les enfants derrière un ordinateur qui va leur apprendre tout, plein de choses?
Ah, c'est déjà un peu le cas.
Oui, mais bon, on peut aussi imaginer que les enseignants, grâce à ces technologies, puissent démultiplier leur force de frappe, par exemple, en donnant des instructions qui, sur Internet, vont permettre d'accompagner les enfants quand ils sont chez eux ou quand ils sont dans des garderies. Et puis, les enseignants peuvent, grâce à ça, améliorer la qualité de ce qu'ils sont offerts. On a souvent dit, depuis le début de l'histoire, depuis l'empereur Dioclétien, les machines, c'est la menace contre l'emploi des personnes faibles, du bon peuple, comme disait cet empereur Dioclétien, qui ne voulait pas qu'on utilise des poulies pour soulever des colonnes parce que il avait peur que ça fasse du chômage. Il y a toujours eu cette peur. Et cette peur, tous ceux qui disent elle a toujours été fausse, se trompent. Et cette peur a créé des blessures profondes dans la société. Mais jusqu'à présent, on a trouvé des manières de s'en sortir par le haut. Le fait qu'on ait jusqu'à présent trouvé des manières de s'en sortir par le haut ne suffit pas à nous rassurer. Parce que ça peut prendre 50 ans, ça peut prendre 100 ans. On n'a pas le temps de se permettre de ça. Mais là, moi, je vois des enjeux très importants se dessiner qui, encore une fois, permettent à ceux qui s'occupent des humains de disposer de réserves d'intelligence qui ne soient pas substituées par des applications tueuses. Regardez ce qu'Amazon a fait à tous les éditeurs. Il les a mis sous sa coupe parce que c'est lui qui distribue des livres. Qu'est-ce qui aurait empêché les éditeurs français de créer une plateforme de cette nature qui leur aurait permis de gérer eux-mêmes les flux? Même chose Booking. Booking détruit, en quelque sorte, prend 15% de la valeur créée par les hôtels simplement parce qu'ils disposent d'une plateforme bien faite, etc. Qu'est-ce qui aurait empêché les Hilton, les Accor, etc. de disposer de ça? Je vois le même enjeu, mais beaucoup plus grave vis-à-vis des hôpitaux et de l'éducation. Qu'est-ce qui empêche les hôpitaux de s'approprier ça? Dans le rapport sur l'intelligence artificielle, j'aurais voulu voir un peu plus de choses qui permettent, encore une fois, d'aider nos enseignants, nos médecins, à disposer de réserves d'intelligence associées à cette nouvelle révolution qui est en train de se produire.
J'ai un élément de réponse, Daniel Cohen, en ce qui concerne Apple et Amazon, puisque ce sont deux sociétés que vous avez citées. Cet été, ces deux entreprises ont franchi la barre des 1000 milliards de capitalisation à la bourse. C'est une barre symbolique, mais ça n'est pas qu'une barre symbolique, puisque ça signifie aussi qu'il y a une hyper concentration des profits, c'est-à-dire pour le dire vraiment schématiquement, pour réaliser des bénéfices records, il suffit d'avoir deux fois moins d'entreprises aujourd'hui qu'on en avait besoin hier. Est-ce que ça signifie que l'avenir, il est à ces entreprises titanesques qui s'emparent de la totalité des activités, puisque Amazon aujourd'hui menace une quantité impressionnante d'emplois, pas seulement les libraires, mais aussi les épiciers, les supermarchés. Bref, comment ça peut évoluer tout ça?
Déjà, c'est pas un avenir, on est dans le présent. Il y a une étude qui a comparé les trois plus grosses entreprises, donc il y a ces trois-là, et peut-être la troisième était Facebook, je ne sais plus, aux trois plus grosses entreprises des années 50 et 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la capitalisation boursière de ces trois premières entreprises est 9 fois exactement supérieure à celle des trois autres, mais ils embauchent 3 fois moins de gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'immatériel. Apple est un excellent exemple, c'est la première à avoir dépassé les 1000 milliards, elle fait faire, elle externalise la fabrication de ses iPhones par la célèbre firme Foxconn en Chine. Elle ne le fait pas elle-même. Elle est dans l'immatériel. Et donc, en effet, on voit l'immatériel, le numérique, absorber toute la valeur et laisser les fabricants des miettes de ce processus-là et laisser ensuite, en effet, le consommateur lui-même faire le dernier pas pour accéder à ses richesses. Donc oui, on est dans un monde, ce que les économistes appellent le rendement d'échelle croissant, où l'immatériel tend à absorber toute la richesse et y compris celle qui résulte de la prolétarisation de ceux qui travaillent pour eux. C'est exactement ce processus qu'il faut prendre à bras le corps, ce qui est fait et sans doute fait, mais je crois que tous les autres domaines dont on a parlé peuvent encore lutter à condition de démontrer qu'on peut produire une valeur supplémentaire en créant des synergies entre l'humain et les nouvelles technologies. Mais vous avez raison, la tendance actuelle va vers une accaparation tout en haut de la valeur pour les entreprises les plus immatérielles avec des cercles concentriques d'inégalités croissantes. C'est ce monde-là qu'on ne peut pas accepter. D'abord parce que ça n'est pas humain d'être dans un monde où tout est numérisé. Il faut être capable de refuser ça. On fête les 50 ans de mai 68. On avait refusé le métro boulot dodo, tous devant la télé. Il y a quelque chose de cette nature qui est en train de se jouer aussi. On a une nouvelle société numérique qui est aussi prenante en réalité que la société d'hier. Tout est numérique, on travaille derrière un ordi, on consomme derrière un ordi. Il faut une distance sociale, une critique sociale de ça, c'est ce dont on parle, des emplois requalifiés et non pas simplement numérisés. Et puis une critique, on disait artiste à l'époque, il y a une critique qui refuse simplement ce mode d'existence.
Mais alors ça justement, Daniel Cohen, est-ce que ces monopoles, parce qu'en économie on suit des monopoles depuis longtemps, il n'y a pas que des monopoles depuis que des entreprises comme Google ou Amazon existent. Comment ils évoluent? Qu'est-ce qui peut les casser? Est-ce qu'ils sont cassables ou est-ce qu'aujourd'hui on a atteint des tailles d'entreprise et aussi des fonctions d'entreprise? Parce que Google, ça n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est aujourd'hui l'axe central d'Internet, autrement dit du vecteur principal d'information de par le globe. Que dit l'économie sur le devenir possible de ces entreprises?
L'économiste, c'est simple, s'inquiète toujours quand il y a des monopoles trop puissants. C'est normal qu'il y ait une phase où on est monopole sur un produit qu'on a créé, surtout quand il y a cette rendement d'échelle qui fait que plus je suis gros, plus j'ai un marché captif, et plus en réalité je peux amortir les dépenses que j'ai engagées. Mais je crois que les autorités de la concurrence ont manqué de vigilance, parce qu'elles laissent ces entreprises-là absorber tous leurs concurrents. Facebook a absorbé Instagram et WhatsApp. Pourquoi les autorités de la concurrence ont laissé faire ça? On avait des concurrents, d'autres forme de communication en réseau, et on laisse le plus gros absorber le plus petit. Donc là, il faut une vigilance absolue vis-à-vis de cette tendance à la concentration qui n'est plus dans l'ordre de l'économie, mais qui est vraiment dans l'ordre du financier. J'ai les moyens de me payer tous mes concurrents, donc effectivement, le monopole, pour le coup, ne peut que croître.
Et cette création de monopole qui a créé des super riches, hein, parce que derrière ces valorisations d'entreprise, il y a des actionnaires, est-ce qu'elle explique la création de poches de pauvreté dont on parlait dans un premier temps, Daniel Cohen?
Ben oui, parce qu'à partir du moment où on est sorti de ce monde industriel dans lequel, encore une fois, les travailleurs les moins qualifiés étaient accrochés au wagon de la prospérité parce que c'était fait pour les intégrer. Là, aujourd'hui, ils sont sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, ils gardent des immeubles, etc. Bien sûr que c'est intimement lié parce que, en effet, notre société, tout simplement, n'est plus inclusive comme elle avait pu l'être avec la société industrielle. La société industrielle était dure, hiérarchique, obéissante, mais elle avait ce mérite. Il faut essayer aujourd'hui de retrouver cette forme d'inclusion dans un monde plus exigeant aussi sur le terrain des libertés.
Daniel Cohen, il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est votre livre aux éditions Albin Michel.